toujours sur le salon Tatou Juste et sur les radios associatives en Loire-Sud, que sont le 90.9 Radio Andenne, 89.5 Radio Dio à Saint-Étienne et sa périphérie. Dernier rendez-vous en conférence sur ce salon Tatou Juste en cette fin d'après-midi de ce samedi. Une rencontre qui va être consacrée à l'habitat groupé. Et surtout la question de la prise de décision, la question de la gouvernance qui va être au cœur de cette discussion qui va suivre pour environ 30 minutes. Vous restez en direct sur les stations Ondaine et Dio pour ce temps de discussion et d'échange. Va s'en suivre un temps d'atelier, de travail donc, qui va se faire là hors antenne, mais toujours en direct de ce salon Tatou Juste. Pour nos radios associatives, le direct va se poursuivre jusqu'à cette fin d'après-midi, avant de vous retrouver, auditeurs, auditrices, demain matin pour le premier temps de rencontre à partir de 11h qui sera consacré au TAFTA et aux alternatives. Je laisse la place à Ecoravi qui va être présent pour ce projet d'habitat participatif qui va présenter ce travail, ainsi que Nicolas de Radio Andenne pour animer également ce temps d'échange et de discussion.
Alors merci Lionel. Donc nous sommes autour de cette table avec Claire Galland d'Ecoravi et Frédéric Stein d'Ecoravi également. Ecoravi, c'est beau, ça sonne bien, mais ça veut dire quelque chose. Alors on va commencer par le début. Qu'est-ce que veut dire Ecoravi ?
Alors Ecoravi, ça veut dire écologique, coopérateur, réuni pour un habitat vivant et solidaire.
Alors la définition de ce sigle est donnée. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'Ecoravi ? Qu'est-ce que cette structure ? Qu'est-ce que cette ambition d'habitat collectif ? Comment c'est né tout d'abord ?
Alors en 2007, fin 2007, donc il y a 8 ans, nous avons appris que certains terrains proches du village étaient constructibles et une amie a appelé des copains et a dit vous voulez pas créer ensemble un habitat collectif. On s'est réunis à une dizaine et on a commencé à rêver, à avoir chacun sa petite maison avec des fleurs, des petits animaux qui passeraient dans le passage, des passages pour les chevreuils, les sangliers aussi. Et on a commencé à réfléchir comment on peut faire cette chose-là.
Alors du coup, cet habitat collectif, comment ça se structure à partir du moment où on a l'idée ? En fait, l'idée arrive, on comprend bien d'habiter tous ensemble, d'avoir un petit lieu commun avec des parties finalement communes, de choisir ensemble le lieu d'habitation, de choisir également ses voisins, de les connaître. Et de cette idée de départ à la construction du projet, comment ensuite on chemine ?
Alors en fait, on a déjà commencé par essayer de voir si on avait une idée commune. Donc on a beaucoup discuté et puis on a commencé à éditer un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'objectifs ou en tout cas ce qui nous intéressait. Ce qui s'est dégagé très rapidement, c'est que nous, on voulait prioriser le vivre ensemble. Donc dire, on voudrait un espace commun, collectif, une maison commune et où on voudrait aussi que chacun s'inspire des autres pour créer, pour s'associer à des projets de création, à des spécialités, je ne sais pas, de menuiserie, d'artistes plasticiens ou bien diverses autres spécialités. Et puis, donc se vivre ensemble, ensuite on a essayé de se dire mais quel habitat on voudrait faire autour. Et ensuite on s'est dit que ce sont les valeurs écologiques dans la mesure de ce que nous on percevait et là où on en était qui allait être déterminante dans la suite du projet. Et en fait on a cheminé et c'est marrant comme les objectifs en fait ou l'ambition elle s'est développée à mesure qu'on a cheminé. Voilà, on n'avait pas prévu d'aller aussi loin et je vous donne là aujourd'hui l'ambition du projet, c'est dire un projet où on achète 0 kWh, on produit plus d'énergie qu'on en consomme et ça c'est et on n'aura pas de chauffage du tout si ce n'est un apport naturel en soleil.
Alors, pour un habitat collectif, il faut une localisation. Et la localisation d'Ecoravi, c'est dans la Drôme, à Dieulefit. pour nous, Ligériens. Expliquez-nous ce qu'est ce lieu, Dieulefi.
Alors, Dieulefi est un village de 3000 habitants qui est à 300 mètres d'altitude. C'est un endroit très ensoleillé et où il y a une culture du village qui est beaucoup avec la résistance. Parce que dans ce village, on a beaucoup accueilli les enfants juifs pendant la guerre. Et il y a toujours eu un fond de résistance. À l'heure actuelle, il y a un collectif citoyen qui se bat pour le TAFTA, qui se bat pour le climat, etc. Donc il y a vraiment une culture contre le courant général de la société, dirais-je.
Alors du coup, Dieulefi, donc c'est dans la Drôme, et ce projet Eco-Ravi est un projet qui va regrouper un certain nombre de personnes, et idéalement, dans votre imagination de finalisation du projet, ce serait 24 adultes, 12 enfants, en gros. Comment on contacte ? C'est comment vous êtes rentrés, vous, en contact, les uns avec les autres, pour arriver à cette idée commune d'un habitat collectif ?
Ben c'est assez étonnant parce qu'au départ, il y avait ce petit groupe. Et puis, à partir du moment où on a édité nos valeurs, on les a plus ou moins colportées, d'abord par bouche à oreille, puis après dans certains médias et magazines écologiques. Et puis, progressivement, donc, des gens sont venus, eux-mêmes ont colporté l'information. On a été dans des salons, on vient ici à Tatou Juste, en fait, et ça s'est fait naturellement. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait vraiment une grosse pub ou un grand battage, mais on a pensé que les choses se faisaient assez naturellement et elles se font assez naturellement. Donc c'est assez étonnant d'ailleurs comme on navigue entre l'idée d'être en confiance et d'accueillir ce qui vient, avec parfois un petit risque qui est « mais est-ce qu'on va avoir suffisamment d'argent pour boucler le budget ?» Est-ce qu'on va avoir suffisamment d'habitants ? Est-ce qu'on va avoir les bons habitants ? Et puis en même temps, être dans une démarche active, là où il y a besoin d'être dans une démarche active. Et au début, on nous appelait plutôt les doux rêveurs. Et aujourd'hui, je crois qu'on a quand même changé d'image parce qu'on a montré aussi qu'on est bien dans l'action et qu'on sait mettre en place des chantiers, suivre des chantiers, engager de l'action.
Alors, l'idéal commun de chacun des habitants, quel est-il ? Sur quoi vous vous retrouvez ? En fait, quelle est la ligne directrice de ce projet-là qui va vous regrouper ?
Alors, je dirais que c'est les valeurs essentielles qui nous portent, c'est la solidarité, le partage, l'écologie. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? L'intergénérationnel. Pour nous, c'est très important de se retrouver. Moi, je suis la plus âgée du projet, j'ai 76 ans. Et puis, il y a des petits bébés, il y en a un qui va naître bientôt. Puis, il y a des enfants qui ont 12 mois, 13 mois, voilà. Donc, ça, c'est le vivre ensemble qui est très important pour nous. Comment apprendre à vivre ensemble malgré nos différences ?
Alors, un habitat collectif comme celui-ci, dans son aspect pratique au quotidien, qu'est-ce qui est collectif dans cet habitat-là ?
Bon, ce qui est collectif, déjà, c'est le lieu de vie. On va avoir 3 bâtiments semi-collectifs avec 18 logements et puis une maison commune dans un espace magnifique, boisé, face aux collines et à 5 minutes à pied du centre-ville. Donc ça, c'est déjà exceptionnel. On va mutualiser un maximum de choses, tant au niveau du service, ça peut être les gardes d'enfants, ça peut être se prêter des véhicules, ça peut être se donner des coups de main divers et variés, et on le fait déjà, en fait. On se rend compte que toutes les personnes qui sont à Dieulefi participent déjà très activement à ce maillage, ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce qu'on a l'impression de s'infiltrer un peu dans la vie du village. On se rend compte sans cesse au marché, à l'école, etc. On va chercher les enfants des uns, des autres. Alors, les instits sont au courant de ce qui se passe et voilà, ils comptent sur nous. Et donc, on partage aussi les tondeuses, la crêpière, je ne sais pas. En fait, tout ce qu'à un moment donné, on décide de tous acheter, chacun dans nos appartements, et qui, à un moment donné, devient juste complètement dingue. Parce qu'il faut tout entretenir, ce parc de matériel, le renouveler. Et puis bon, bah, à un moment donné, on peut partager énormément de choses.
Alors c'est un projet qui est né il y a 8 ans. Aujourd'hui, la phase des travaux vient tout juste de commencer. En ce laps de temps, comment on arrive à rester unis dans ce projet-là? Parce que c'est vrai que c'est une période assez longue et c'est un projet qui peut être plus compliqué qu'une solution plus simple qu'un habitat individuel.
Écoravie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous étions 10 au départ, il ne reste plus que 2 personnes du groupe de départ. C'est un groupe vivant, c'est un groupe mouvant. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop long. Il y a des gens qui ont du mal à s'insérer dans un esprit collectif, à travailler ensemble. Donc ils nous quittent. Il y a des couples qui se séparent, c'est la vie ça, donc ils sont plus avec nous. Chaque fois, c'est un petit déchirement parce qu'on est comme des frères et sœurs. C'est un peu une famille, Écoravie. Mais il y a des nouveaux qui arrivent. Et alors, ça, c'est merveilleux parce qu'ils nous apportent leur enthousiasme et leurs compétences. Parce qu'au bout de 8 ans, il y en a certains qui commencent un peu à fatiguer. Vous savez, on fait un week-end par mois, un conseil d'administration et on bosse beaucoup. En plus, on est tous dans des commissions. Il y a 20 commissions et on n'est que 18 actuellement. Donc imaginez, on est tous dans plusieurs commissions. On passe du... Voilà. C'est un très gros travail, mais c'est passionnant. Et on est chaque fois heureux de se retrouver. Même parfois, on se dit, oh là là, on va encore sortir ce soir. Bon, la semaine prochaine, j'ai 3 commissions le soir. Voilà.
Alors, avant de revenir sur... ce côté commission et ce côté administratif de cet habitat collectif, une question que l'on peut se poser, que le public ici peut se poser, que les auditeurs de Radio Dio, Radio Ondaine peuvent se poser, comment on finance un projet comme ça, quand on est plusieurs dans un habitat commun où chacun va mettre une somme d'argent, peut-être l'un, l'autre, pas la même, pas les mêmes financements, pas les mêmes revenus. Comment ça se décide et comment on présente ça face à quel financeur?
Alors notre idée de départ, c'était de faire un projet solidaire et on y est toujours. C'est-à-dire qu'on peut vite se décourager en disant la solidarité, c'est bien beau, mais quand on l'expérimente au quotidien, il faut quand même amener l'argent qu'il faut pour construire. Et c'est vrai qu'on accepte ce déséquilibre, ce risque, de se laisser guider par la confiance qu'on va y arriver, on va trouver des investisseurs. Et notre cheminement, ça a été de dire, on met le maximum dans ce projet. Et lorsque chacun a mis le maximum, on est arrivé à 1,6 million sur 3,2 millions estimés pour ce projet. Donc il reste 1,6 million à trouver par des investisseurs extérieurs qui ne seront pas habitants. Et en fait, on a demandé à des banques, et par rapport au projet collectif, les banques sont extrêmement frileuses, et elles ont toutes refusé. Ou bien, celles qui sont plus solidaires nous ont proposé des taux complètement monstrueux, et ça en était complètement dissuasif. Donc on s'est tourné vers des investisseurs privés, comme vous, et on a déjà obtenu 500 000 euros d'investissement participatif. Avec des gens qui ont versé, pour le plus important, Bernard, 150 000 euros. Et puis, pour des gens moindres, 2 000 euros, mais qui sont complètement contributeurs de ce projet. Il nous manque aujourd'hui 1 100 000. Et on a dit qu'on n'allait pas attendre de boucler le budget pour démarrer, parce que ce qu'on va construire, ça va montrer, ça va faire sens pour les gens qui vont voir ces bâtiments, voir aussi la qualité des constructions, la qualité du vivre ensemble. Et donc on se passe des banques, c'est un pari, et pour l'instant, on en est là.
Maintenant, les relations que vous pouvez avoir avec la municipalité de Dieulefi, les rencontres peut-être que vous avez eues, comment ça se passe? De quel œil voit-il cette situation-là? Est-ce que c'est finalement un moyen de faire un habitat collectif sans l'influence de la municipalité? Est-ce que c'est un moyen dynamiser la vie locale?
Alors, quand on a commencé à parler de ce projet, on nous a traités par derrière de doux rêveurs fumeux. Alors, doux rêveurs fumeux, oui, c'est... Et puis petit à petit, la municipalité s'est rendue compte qu'on était des gens sérieux, qu'on se mettait au travail. Et en particulier, on a fait un plan d'urbanisme qui nous était demandé, qui était quelque chose de difficile à faire, mais on avait une urbaniste qui a bien travaillé. Mais donc maintenant, on a de très bonnes relations avec la municipalité, mais c'est une municipalité qui ne mettra pas d'argent dans ce projet. Ils disent ne pas en avoir, je pense qu'ils n'en ont pas beaucoup non plus. Mais ils nous soutiennent et on est soutenus aussi par le conseil général et par le conseil régional. Et avant de continuer, j'aimerais quand même vous raconter une petite histoire à propos de financement. C'est une histoire de Nasreddin Hoxha. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme-là. C'est un homme qui est à la fois sage et à la fois fou. Parfois il est sage et parfois il est fou, un peu comme nous tous d'ailleurs, de jour où, voilà. Et Nasreddin Hoxha, c'est un personnage qui est très connu dans toute la Méditerranée. En Turquie, on l'appelle Nasreddin. En Algérie, c'est Djeha. En Égypte, c'est Goa. Et les histoires sont toutes les mêmes. Et un jour, la femme de Nasreddin Hoxha lui dit « Il faut que tu fasses quelque chose. » Dans ce village, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et la nuit, ils ne dorment mal. Tout ce village dort mal. Les riches ont peur que les pauvres viennent les voler. Et les pauvres, eh ben, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger le lendemain s'ils auront assez d'argent. Elle dit, ça ne peut pas durer. Elle dit, mais si seulement ils partageaient, tu devrais aller leur demander ça. Nasreddin me dit, ma femme, ça c'est une bonne idée. Vraiment, tu as une bonne idée. Demain matin, j'y vais. Alors, le lendemain matin, il met sa djellaba, tout ça. Il se fait beau, il se met un petit coup de peine. Enfin, non, pas de peine, juste comme ce qu'il il aimait bien ça, quand même. Et il arrive et il part. Et le soir, quand il rentre, il est épuisé, il est fatigué. Alors, sa femme lui dit, ça y est, ça marche, ça marche. Alors, il dit, à moitié. Et elle dit, comment ça, à moitié? Et eh bien, elle dit, les pauvres, ils sont d'accord, mais pas les riches.
Bah, c'est une belle histoire qui peut amener une explication à ce projet-là. Vous avez parlé tout à l'heure de commissions. Et sans les détailler toutes, on peut imaginer des commissions sur l'énergie, sur l'espace commun, sur l'entretien, etc. Ce projet est en construction avec un certain nombre de personnes. Vous l'avez dit, en 8 ans, des personnes se sont intéressées, se sont rapprochées du projet, sont ensuite parties. Une fois la construction terminée, si quelqu'un veut s'en aller de ce projet collectif, quelle commission gère ce départ-là? Et comment vous imaginez le départ de quelqu'un qui s'est inscrit dans cet habitat commun avec un financement particulier, mais aussi avec un appel au financement de contributeurs.
Bon, Claire me laisse la parole. En cas de départ, c'est vrai qu'on a géré ça depuis le début, puisqu'il y a des gens qui partent régulièrement. La commission qui s'en occupe, c'est la commission entrée-sortie. En tout cas, c'est une commission qui fixe les règles d'entrée et les règles de départ. Mais il y a plusieurs commissions qui sont sollicitées, puisqu'il y a aussi la commission finance qui va essayer d'étudier comment on peut les rembourser pour pas mettre en péril la structure, à quel rythme, est-ce qu'on doit faire des provisions de trésorerie. Il y a le collège de l'association qui va voir comment on règle ça ensemble par rapport à l'association. Et puis, il y a le collège de la SCI, parce qu'aujourd'hui, on est pour l'instant en SCI, on va vers la coopérative d'habitation, qui va voir comment on les rembourse. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a tout un maillage et tout le monde travaille en synergie, mais chacun dans son domaine pour clarifier la situation. Donc en fait, d'un point de vue financier, chaque personne qui arrive et qui met de l'argent au départ, investi dans ce projet, il le place dans un compte courant. Il prête, il investit comme n'importe quel autre investisseur participatif. Et puis, lorsqu'on y habitera, mensuellement, on mettra des mensualités qui augmenteront cet investissement. Et le jour où je m'en vais, eh bien, je pourrai repartir avec et mon investissement de départ et ce que j'ai réussi à verser au titre de mes mensualités. Voilà, donc en fait, il faudra juste trouver, et c'est parfois pas simple, une personne qui va amener la même chose, au minimum, au moins, que ce que j'emporterai, que ce que je récupérerai. Donc il faudra qu'il amène une somme d'argent suffisante. Mais on est en train de réfléchir à un système où on va autonomiser financièrement la structure, et ce progressivement, pour que la structure appartienne à elle-même et qu'elle n'appartienne plus aux habitants. Et donc on vous exposera, ça c'est la suite de notre travail ici, de notre atelier, plus en détail comment ça fonctionne.
Alors c'est dans quelques minutes cet atelier, encore quelques questions à vous poser. Ces habitats collectifs existent, ce n'est pas un cas particulier et unique. À côté de votre stand sur Salon Tatou Juste, vous avez les castors, habitats collectifs à Saint-Étienne. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'expériences réalisées en France? Est-ce que vous avez visité ces gens-là? Est-ce que vous avez demandé conseil? Et si oui, expliquez-nous un peu qui vous avez rencontré pour le montage de ce projet.
Alors au tout début, on avait encore pas mal de temps et on a voyagé. Et on a été en Suisse en particulier parce qu'en Suisse, l'habitat collectif, coopératif est très développé. Je crois que c'est en tout cas 5%, mais c'est peut-être 10% du parc qui est sous forme de coopérative d'habitants. Donc on a visité plusieurs coopératives en Suisse. On est allé voir aussi autour de nous le hameau des Buis, qui est quelque chose lié à Pierre Rabhi. C'est la fille de Pierre Rabhi qui s'occupe de cet habitat groupé. Et voilà. Puis maintenant, on est tellement occupé qu'on n'a plus beaucoup le temps d'aller visiter ce qui se passe. Mais on a rencontré des gens dans la Drôme. Il y a le collectif Habitaire avec qui on est en lien. Et surtout à Lyon, il y a une association qui s'appelle Abicop et qui nous aide dans les problèmes qui se posent à nous. On est facilement en relation avec d'autres. On va à des rencontres nationales de l'habitat participatif. Par exemple, on était là à Marseille. Il y avait un millier de personnes qui étaient présentes. Et là, il y a des gens qui nous ont contactés, avec qui on est en contact. Et voilà, et on se répond.
Peut-être à noter également qu'on a été retenu projet pilote dans le réseau Colibri, des oasis en tout lieu. Et qu'à ce titre, en fait, on assiste non seulement à des réunions régulières de mutualisation, de partage d'expérience, et aussi on obtient un soutien, notamment sur l'aspect communication. Ils nous ont aidé pour l'instant à réaliser un petit film qui va sortir là. On a déjà l'avant-projet. Et puis, ils nous aideront aussi sur des aspects juridiques, sur du montage financier, des choses comme ça. Donc, à mesure qu'on détermine nos besoins, ils sont là en soutien. Et là, vraiment, on peut souligner et remercier cette initiative des Colibris.
Alors, si la vie d'Ecoravie devient un long fleuve tranquille, pour reprendre votre expression un peu à l'inverse, quand est-ce que vous imaginez la finalisation du projet ?
Eh bien, le premier bâtiment sera construit au printemps, à la fin du printemps 2016, le premier bâtiment. Et on pense que dans la suite, les autres bâtiments vont se mettre en place, puisque des investisseurs solidaires vont nous aider à avancer dans ce projet magnifique, très innovant, très porteur de valeurs d'avenir.
Alors, dans quelques minutes, se tiendra donc un atelier animé par Ecoravie, gouvernance d'un habitat groupé. Je rappelle au public que cette émission est radiodiffusée sur Radio Ondaine 90.9 et Radio Dio 89.5. Nos deux radios associatives sont présentes aujourd'hui, samedi et demain, dimanche 29 novembre, entre 10h et 19h sur le salon Tatou Juste. le public est présent. Pour terminer avec cet entretien, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Alors, il faut lever la main, demander un micro qui viendra vers vous et poser vos questions à Claire Galland et Frédéric Stein de ce projet Ecoravi. Aucune main ne se lève. Donc peut-être qu'on va laisser l'espace libre pour l'atelier gouvernance d'un habitat groupé. Frédéric et Daniel, merci d'avoir participé à cette émission. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour ce projet Ecoravi.
Merci Nicolas.
Merci Nicolas. Au revoir.